J'aimerais partager aujourd'hui avec vous la prière, l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 3, du verset 14 au verset 21. En fait, la question que j'ai posée tantôt, en fait, la réponse, on la trouve dans cette prière-là que l'apôtre Paul fait à Dieu, pour les Éphésiens, dans le chapitre 3, en fait. Mais avant, voyons quelques choses, quelques informations sur l'Église en Éphèse. L'apôtre Paul avait séjourné dans cette ville-là, à peu près 3 ans de ministère en Éphèse. On peut voir ça dans Actes, dans son troisième voyage missionnaire. Là, c'est l'apôtre Paul qui reste là pendant 3 ans, à cette église-là. Actes 19 à 20, vous pouvez lire ça et vous pouvez constater que Paul est dans cette église-là. C'est une ville très célèbre de l'Asie mineure. Cette ville a beaucoup d'influence des étrangers dans le temps de Paul, à cause de son fameux temple, quoi, vous vous rappelez, le temple de la... De Diane. Donc, c'est très connu, là, qui passait par une des merveilles du monde à l'époque. Les Éphésiens étaient fort adonnés aux arts, à la magie, même aux sortilèges, à l'astrologie. C'est une ville païenne. Et il y avait des chrétiens, oui. Selon Éphésiens 3.1, 4.1 aussi, l'apôtre était en prison quand il était en train d'écrire cette lettre, cette épître aux Éphésiens. Vous pouvez constater ça dans le chapitre 3 et le chapitre 4. C'est pour ça qu'on classe cette épître dans les épîtres de la captivité, un peu comme Philippiens, Philémon et aussi Colossiens. Et si on veut faire un petit court résumé de cette épître-là, on voit qu'il y a une courte introduction du chapitre 1, quelques versets, puis une courte aussi conclusion dans le chapitre 6. En fait, 6 chapitres. Le message de la lettre se divise en 2 parties principales, du chapitre 1 à 3 et du chapitre 4 à 6. Et du chapitre 1 à 3, après avoir exprimé son émerveillement, comment Dieu a sauvé le peuple, les païens aussi, l'apôtre Paul développe aussi le thème de l'unité, c'est ce qu'on a entendu tantôt, l'unité, en montrant comment Dieu a incorporé les non-juifs et les juifs dans son seul peuple. Sans peuple. Et donc, on voit ça du chapitre 3 au chapitre 3. Mais dans le chapitre 4, l'apôtre nous appelle au lecteur à vivre cette unité d'une façon selon la nouvelle union à Jésus-Christ. Et donc, c'est beaucoup plus pratique, ce chapitre-là, à partir du chapitre 4. Et pour illustrer l'unité du peuple, l'apôtre emploie 3 images, celle du corps, l'Église dont Jésus est la tête, et celle de l'édifice dont Jésus est la pierre de l'angle, et celle du couple où Jésus est l'épouse, l'Église étant l'épouse de Christ. Donc, c'est 3 images qu'on voit. Mais on voit d'autres passages aussi qui sont très connus dans cet épître-là. Et je pense que vous connaissez très bien le passage d'Éphésiens 2:8 à 9, qu'on utilise beaucoup pour l'évangélisation. Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau, c'est un don, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Et je fais une petite parenthèse. Si vous ne connaissez pas cette grâce, aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous l'approprier. C'est la seule façon qu'on peut être sauvé, par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous. Cela vient de Dieu. C'est un don de Dieu, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. On l'a chanté tantôt. Jésus prit mon péché. C'est la base, c'est vraiment le message de l'Évangile. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la vie éternelle avec Jésus, avec Dieu, s'il vous plaît, ne quittez pas sans prendre cette décision-là. Venez nous voir, pasteur Richard, moi et d'autres frères et sœurs qui sont là. Allez les voir si vous voulez plus d'éclaircissement par rapport au message de l'Évangile. Donc, je disais la seconde partie, puis on voit aussi dans le chapitre éphésien l'armure du chrétien, aussi très connue pour nous dans le chapitre 6. Mais on voit dans la seconde partie que l'épître étant de plus aspects pratiques, avant que l'apôtre donne des instructions ou des directives comment vivre cette unité en Christ, il élève une prière à Dieu avec un but spécifique avant de rentrer dans le chapitre 4. il élève une prière à Dieu. C'est justement dans cette prière que nous allons trouver la réponse à la question qu'on s'est posée. Qu'est-ce qu'on doit savoir, comprendre ou connaître pour affronter les différentes situations que nous vivons comme peuple de Dieu, comme Église? Donc lisons s'il vous plaît l'Épître aux Éphésiens, du chapitre 3, du verset 14 à 21. Vous avez tous ouvert votre Bible? C'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur, parce que cette prière aussi se traduit comme le désir de ton cœur pour ton Église, Seigneur. Et veuille nous parler, Seigneur. Transformer nos vies par le message de ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est précieux à nos cieux, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour pouvoir comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Et nous prions au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Donc, nous venons de lire cette prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Puis, j'aimerais juste qu'on remarque trois aspects de cette prière-là. Le premier aspect, la raison de cette prière, du verset 14 à 15. Donc, c'est juste sept versets, 14 à 21. Donc, la raison de cette prière, le but spécifique de cette prière de l'apôtre Paul, du verset 16 au verset 19. Et la conclusion de cette prière, du verset 20 à 21. Donc, c'est trois choses, quoi. Mais on va s'attarder plutôt dans le but spécifique de la prière, donc c'est-à-dire du verset 16 au verset 19. Donc, commençons par la raison de cette prière, du verset 14 à 15. Restez avec vos Bibles, s'il vous plaît. C'est pourquoi, parce que, en tout cas, je vais le dire après, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Trois aspects dans cette partie de la prière. Dans ces deux versets, en fait, là. Le pourquoi, l'attitude et à qui elle s'adresse. À qui s'adresse cette prière-là? Le pourquoi, c'est ici que l'apôtre reprend, quand on voit le premier verset du chapitre 1 aussi. C'est pour cela qu'il parle, c'est pour cette raison. Et il introduit à cause du mystère. Il fait en parenthèse le mystère de Dieu, comment il a sauvé aussi les païens par l'Évangile. C'est là l'expression « en cause de cela » qui se réfère au chapitre 2 aussi, où il décrivait que les païens avaient été par nature et qu'est-ce qui était devenu par l'union en Christ. Et tout cela pousse Paul à prier, pour qu'il puisse toujours vivre dans cette pensée. Et on voit aussi l'attitude de Paul. Je fléchis les genoux. Pourquoi Paul mentionne ça? Je fléchis les genoux. D'ailleurs, quand il était en train d'écrire cette lettre, peut-être il n'était pas en genoux. Ou peut-être oui. Mais il dit, je fléchis les genoux. Ça montre vraiment, il veut montrer vraiment l'attitude de son cœur. C'est pourquoi je fléchis les genoux. Les pharisiens étaient habitués à prier debout. Et Paul était l'un d'eux, là, avant, auparavant. Donc, avec cette expression « je fléchis les genoux », il montre vraiment sa dépendance, son changement de cœur aussi envers Dieu. Son attitude. En fait, nous pouvons être dans un lit d'hôpital, et en même temps prosterné devant Dieu, dans notre cœur, C'est vrai? Nous puissions être sur une chaise roulante, mais avoir une attitude. Fléchis les genoux, je fléchis les genoux devant Dieu. À terre même devant Dieu. Parce qu'on est, vraiment dépendant de lui. Donc l'efficacité de la prière ne dépend pas de la posture physique du corps. Mais ça montre notre attitude envers Dieu. C'est important, l'attitude. C'est comme l'enfant qui, la maman dit, reste, assis-toi, puis l'enfant, il ne veut pas s'asseoir. Je te dis, assis-toi, deux fois, il reste debout. Je te dis, la troisième fois. Et vous savez, les parents, vous savez, quand c'est la troisième fois, c'est quelque chose va arriver après la troisième fois. Puis là, l'enfant, il s'assoit, mais il dit dans sa tête, je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. Donc, tout dépend de l'attitude du cœur. C'est vrai? Tout dépend de l'attitude du cœur. C'est vraiment dans ce sens-là que l'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux. Devant qui? Devant le Père. Par contre, nous avons un exemple frappant de notre Seigneur devant son Père. Vous vous rappelez, en Gethsémané, il se jeta la face contre terre lorsqu'il pria à Gethsémané. On a un exemple frappant de notre Seigneur Jésus. En fait, c'est notre exemple. Dans tout aspect, dans tout sens, notre Seigneur Jésus. L'aspect de dépendance à son Père. Mais il était Dieu. Mais il dépendait à 100% de son Père. Il pliait les genoux devant son Père. Et devant le Père, il dit, la prière s'adresse au Père, selon l'enseignement de Jésus même. Vous vous rappelez les disciples qui demandent à Jésus dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 11, les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Il leur dit, quand vous priez, dites, quoi? Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On peut aussi voir cet exemple dans l'évangile selon Matthieu aussi. Père, que ton nom soit sanctifié. Mais un aspect aussi à la fin de ce verset-là, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Dans un sens général, frères et sœurs, Dieu est le Père de l'humanité entière, étant le Créateur, comme dit dans Actes 17, 28, versets 28 et 29. Dans un sens plus restreint, Dieu est le Père de tous les croyants, vu qu'il les a engendrés pour faire part de la famille spirituelle. Comme dit Galates 4, 6, c'est très clair ce verset-là. « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père, notre Père ». D'une manière unique, Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils et le Père étant égaux. Et Jésus dit dans Jean 5, 18, les Juifs cherchaient d'abord à cause de ça à le faire mourir parce qu'ils disaient que Dieu était son propre Père. Se faisant ainsi, lui-même égal à Dieu, en disant qu'il était son Père. En fait, le titre de Père, nous comme chrétiens, on l'acquiert à cause de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu vraiment avec ce langage, notre Père. C'est lui qui nous a sauvés. Nous sommes devenus ses enfants. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, le Père encore, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est qu'il ne connaît pas Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. C'est juste ceux qui ont témoigné de l'amour du Père. Tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu par nature. Ils sont au contraire enfants de quoi? De désobéissance et de colère. Dans Éphésiens 2, il parle, Paul. Dieu créateur est le Père de tous les hommes. Dieu sauveur n'est le Père que de ceux qui croient en lui. Dieu le Sauveur, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu à ceux qui croient, à ceux qui croient en son nom. Nous avons notre Père à ceux qui croient en son nom. Donc, là, tout de suite, on a vu vraiment à qui se dirige cette prière-là, dans quelle attitude diriger cette prière-là. On va voir vraiment maintenant le but de cette prière, du verset 16 à verset 19. Je vous invite encore à lire tenir votre Bible en main parce que la prière de l'apôtre Paul présente quatre requêtes, cette prière-là, qui ne pouvaient pas être isolées comme des demandes individuelles. Okay? C'est quatre requêtes. Chacune des requêtes conduit à la suivante, de façon progressive, pour arriver à un but principal dans cette prière-là. C'est particulier la prière de Paul. C'est quatre aspects, quatre requêtes, mais une après l'autre. Verset 16, voyons le verset 16. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Premier aspect, être fortifié par l'esprit. C'est ça la prière de l'apôtre Paul. Être fortifié par l'esprit. Cette prière est centrée sur l'aspect spirituel de l'homme intérieur et non aux besoins matériels du corps. C'est vraiment l'affaire intérieure du cœur. Il n'est pas mauvais de prier pour des choses matérielles ou physiques, mais dans cette requête, l'accent est mis sur la spirituelle du croyant. Paul sait que l'homme intérieur, si l'homme intérieur est conforme à Dieu, il va prendre soin de l'aspect extérieur. Okay? Un peu comme on parlait de la tenue vestimentaire tantôt. Paul sait que si l'homme intérieur est conforme à Dieu, il va prendre soin de son aspect extérieur. C'est vrai, c'est logique. Trop de nos prières se portent, de mes prières se portent que sur des besoins physiques et matériels. Et on néglige des fois les besoins tellement plus profonds du cœur. Donc, demandons à Dieu qu'il nous aide dans notre être intérieur. C'est là que se trouvent nos plus grands besoins. C'est là qu'il se trouve le plus grand besoin, l'aspect intérieur de nos cœurs. Et la présence du Saint-Esprit dans le chrétien est la preuve du salut. On peut tous savoir ça. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est la preuve, le Saint-Esprit dans le chrétien, la preuve du salut. Dans Romains 8, 9, on peut voir ça. Mais la puissance de l'Esprit est disponible pour la vie chrétienne. Et cette puissance, c'est ce que Paul désire pour nous, comme chrétiens. Paul désire que cette puissance soit une réalité dans la vie de nous, comme Église. Et cette puissance-là, selon ce verset 16, est donnée selon la richesse de sa gloire. Christ est retourné dans la gloire. Et de là, il a envoyé le Saint-Esprit à son Église, à son peuple, pour habiter et donner la puissance. Nous sommes témoins de cela. Si vous lisez le livre des Actes des apôtres, vous allez voir comment le Saint-Esprit agit de façon incroyable dans les croyants, les apôtres, mais surtout sur les croyants aussi. Je vous invite vraiment à lire d'un bout à l'autre le livre des Actes des apôtres et vous allez voir, plusieurs l'ont appelé le livre des Actes du Saint-Esprit parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit dans le... On peut voir déjà dans le chapitre 1, là, déjà dans le verset 8, on voit « Mais vous recevrez une puissance, celle du quoi ? Celle du Saint-Esprit souverainant sur vous. » C'est la puissance du Saint-Esprit dans la vie de nous, de nos cœurs, que s'adresse cette prière, que l'apôtre Paul prie pour que cette puissance soit une réalité. Être fortifié, avoir la force en l'Esprit. Un autre aspect, dans le verset 17, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Que Christ habite dans les cœurs par la foi. Que le Seigneur habite dans votre cœur par la foi. Paul utilise trois images pour faire comprendre cette idée de la profondeur spirituelle, en fait. Trois verbes, habiter, enraciner, est fondé dans ces versets-là. Habiter, le verbe habiter, signifie littéralement établir et se sentir chez soi, à l'aise. Il prie pour que Christ soit à l'aise dans votre cœur, il puisse avoir une place, non une relation superficielle, mais dans une communion toujours plus profonde. Mais dans quelle place le Seigneur a dans notre cœur, dans mon cœur? Est-ce qu'il est à l'aise ou il est assis dans un coin, là, dans un petit fauteuil? Quelle place il prend dans nos cœurs, dans mon cœur. C'est pour ça qu'il dit qu'il puisse habiter dans votre cœur. Le verbe enraciner nous transporte à la nature. Comme un arbre doit planter ses racines profondément au sol, il veut bénéficier de la nourriture et de la stabilité. Les racines spirituelles du chrétien doivent être profondément implantées dans l'amour de Dieu. On peut voir ça dans le psaume 3. On a étudié les psaumes. On a commencé à étudier les psaumes. Là, dans le psaume 3, 1, 3. Qui se rappelle un peu? Qu'est-ce qu'il dit le psaume 1, 3? Sera comme un arbre. Près des courants. Donc, il donne quoi? Son fruit en son temps. C'est ça vraiment. Qu'il soit enraciné comme un arbre dans son amour. Et si vous lisez, on n'aura pas le temps de lire peut-être Jérémie 7, 17, 7 à 8. Je vous invite vraiment à lire ce verset-là. C'est comme un commentaire de ce verset-là, du psaume 1, 3. Jérémie 7, 7 à 8. Il y a plusieurs aspects, c'est beaucoup plus détaillé. Je vous invite vraiment à lire cet aspect-là de l'arbre. Nos racines doivent être plongées de plus en plus dans l'amour de Christ. Le verbe « fonder » est un terme quoi? Pour ceux qui sont à l'aise avec l'architecture, fonder, fondation, sur laquelle nous bâtissons. Jésus raconte l'histoire des deux bâtisseurs, donc il ne creusa pas suffisamment ses fondations dans Matthieu 7, 24 à 29. Vous connaissez bien ce passage-là, des deux bâtisseurs. Paul prie afin que les croyants puissent avoir une expérience plus profonde avec Jésus-Christ, ayant comme fondement son amour, enraciné, fondé dans l'amour. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Que ce soit une réalité aussi, celle-là. Allons voir un autre aspect de cette prière, toujours dans le but d'arriver à un but spécifique dans la prière de Paul. Verset 18, « Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. » Ça, on voit 4D, on est habitué à 3D, la 3 dimensions, mais là, on voit 4 dimensions. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur, l'auteur et la longueur. Comprendre et connaître l'amour de Christ. Comprendre et connaître l'amour du Christ. Ça, c'est l'autre aspect de cette prière-là. Non seulement que Christ habite en nos cœurs, oui, en habitant dans notre cœur et enraciné dans son amour, on va pouvoir comprendre et connaître l'amour de Christ. Déjà, l'apôtre Paul met un accent sur l'amour dans cet épître-là, dans le verset 1, 4, il dit, « En lui, nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. » Et dans le verset 4 du chapitre 2 aussi, « Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause de son grand amour dont il nous a aimés. » Comprendre l'amour de Christ. Maintenant, Paul prie pour que nous puissions comprendre les dimensions de l'amour de Christ. Et il est clair qu'il vise l'aspect individuel, mais aussi l'aspect en Église. Si vous voyez ce verset, il prie, étant enraciné et fondé dans l'amour, nous soyons capables de comprendre et remarquer bien avec tous les saints les dimensions de l'amour de Dieu. Il dit, afin de comprendre avec tous les saints. Il ne dit pas juste vous, là, individuellement. Que nous puissions tous comprendre. C'est pour ça que je parlais tantôt de nos fardeaux, de nos problèmes comme église locale. Qu'on puisse comprendre tous l'amour de Christ. Je sais que plusieurs comprennent très bien l'amour de Christ. Mais qu'on puisse être tous unanimes, l'unité, et comprendre bien l'amour de Christ. Les dimensions de l'amour de Dieu. Quelle est la largeur de l'amour du Christ? Son amour est si large qu'il n'a pas de peuple qui n'a pas visé dans son amour. Vous êtes d'accord avec moi? Son amour inclut les Juifs, les païens, les Grecs, les barbares, esclaves, libres, fils et filles, vieux, nouveau-nés en Christ. Son amour est si large qu'il englobe tout le monde. Mais on peut le voir ici, vraiment. Hein? Vous pouvez le voir, le vivre. On a cette... dans la réunion d'anciens ce vendredi-là, on a cette richesse, vraiment, de voir représenter tant des nations ici, tous ensemble. Des Péruviens, des Amériques du Sud, des voisins de Chili, voisins de Brésil. C'est la même chose. Des tout. On est représenté combien de nations ici? 34. 34 environ, 30 quelques nations représentées. On a cette richesse de comprendre cet amour-là qui vise tous les peuples. Les dimensions, la largeur de cet amour-là. Qu'il est la longueur de l'amour du Christ. Son amour a commencé avant la fondation du monde, quand il dit dans Éphésiens 4, dans l'éternité passée, selon les desseins éternels. On voit ça dans le verset 3, 11. Et pour l'éternité future, quand on va recevoir notre héritage dans le verset 1, 18, la longueur de cet amour, la profondeur de l'amour de Christ à cause du grand amour qu'il nous a aimé. C'est profond. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est la profondeur de l'amour du Christ envers nous. Dans le verset 2-5 de Éphésiens. Qu'il est la hauteur de l'amour du Christ. Quand on passe en hauteur, c'est quoi là? On vise quoi? Les cieux. L'amour si haut qui nous ressuscite ensemble et nous fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Chapitre 2, verset 6, de la même épître. Bien au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, dans la même épître, verset 21 du chapitre 1. Écoutez bien ça, mes frères et sœurs. La largeur, la longueur. La profondeur, la hauteur. Mais un amour qui surpasse quoi? Toute connaissance. Toute connaissance. Pourtant, il dit que nous pouvons le connaître, mais pourtant, il dit que ça surpasse toute connaissance. De connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Comment pouvons-nous mesurer l'immesurable, comment on dit? Immesurable? Immensurable, voilà. Comment on peut le mesurer? C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs qui permet de mesurer l'immensurable et de connaître l'inconnaissable. Parce qu'il dit connaître l'amour du Christ, qui est insondable, qui on ne peut pas comprendre. Mais c'est le Saint-Esprit qui Paul prie au début, qui soit fortifié par l'Esprit. C'est la prière de Paul aussi. La seule manière de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et de l'expérimenter. Et comment on expérimente cet amour tout seul, dans notre coin? Non. En famille, en église, on peut expérimenter cet amour-là. Et on peut être témoin de cet amour-là. Il nous a sauvés des différentes situations, des différents peuples, des différentes manières. Dieu nous a sauvés d'une façon merveilleuse. Si je prends ma vie en exemple, il m'a amené de très loin. D'autres sont venus d'autres pays, d'autres en des circonstances très difficiles. Il nous a sauvés à cause de son grand amour. Qu'on puisse comprendre les dimensions de l'amour de Christ. Et verset 19, encore un autre aspect, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ça vraiment le but de cette prière. En sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à cause de son amour, être remplis de la plénitude de Dieu. Je ne comprends pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire être rempli de toute la plénitude de Dieu? Est-ce que je peux dire je suis rempli de toute la plénitude de Dieu? Mais c'est pourtant le but vers lequel nous allons. Vers la perfection, comme Paul dit, des progrès en progrès dans notre vie. On est en train d'être sanctifié dans notre vie chrétienne, aller de plus en plus pour remplir cette plénitude de Dieu. Des fois, je dis, comment on va être quand on sera devant Dieu? Puis là, je m'en vais au chapitre 2 de la Genèse, quand il dit, et Dieu créa l'homme et la femme à quoi? À son image. Avant le péché, il le créa à son image, en communion parfaite avec Dieu. J'imagine ça, là. Il n'y avait pas de péché, là. Quand le diable est venu dans le chapitre 3, il a dit, non, mais prends le fruit, là, et tu vas voir, tu vas être comme des dieux, comme Dieu. Il y en a d'autres qui le traduisent. J'aurais voulu être là pour... On a l'avantage qu'on a toute la révélation. Pas parce que je suis plus juste que Ève ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on a toute la révélation ici. On aurait pu chuchoter à Ève. Ève, réponds-lui là. Je suis déjà à l'image de Dieu. Pas besoin là que tu me dises, tu seras pareil à Dieu. Je suis déjà à l'image de Dieu. J'imagine comment on va être. Pas de péché dans le monde. La réponse, nous la trouverons dans le but ultime de cette prière. Si nous résumons jusqu'ici ce que l'apôtre Paul prie pour que l'être intérieur reçoive la force spirituelle nécessaire pour le conduire à son tour à une expérience plus profonde avec Christ. Cette expérience plus profonde avec Christ le rendra capable de saisir le grand amour de Dieu qui aboutira à être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. La prière de Paul, frères et sœurs, est conforme au dessein de Dieu, à la volonté de Dieu pour nous, pour nos vies, pour les membres du corps de Christ, pour les membres de cette Église. Transformer le pécheur à son image parfaite. Romains 8, 29, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Galates 4, 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. De Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et j'aime beaucoup ce verset-là. Jean 3, 2 explique très bien cet aspect-là, là, de la plénitude de Dieu. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous avons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. À qui, là? À qui on verra? On verra à qui? On verra Dieu, là. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et que nous serons... Il n'est pas encore à manifester ce que nous on va être, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ça l'espoir qu'on a. On sera comme lui. Encore mieux, je pense, que dans le jardin, parce qu'il n'y aura plus de Satan, parce qu'il va être quoi? Il va être écrasé, il va être au fond. Il va être lancé avec tous ses anges. Il n'y en aura plus. Mais encore là, je ne peux pas imaginer ça. Mais je peux le croire parce qu'il est écrit là. Et j'ai cet espoir-là. On a cet espoir-là. Et en plus, c'est la partie préférée de ce verset, de ce chapitre 3, 2 de 1 Jean, c'est qui suit le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Quiconque à cette quelle espérance qu'on va être un jour avec lui et on sera semblable à lui. C'est lui qui a cette espérance, nous avons cette espérance, nous persévérons dans notre vie chrétienne pour être remplis du Saint-Esprit, pour être remplis de son amour, fondés, enracinés dans son amour. Et la conclusion de cette prière du verset 20 à 21 est le verset 20, « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Encore une fois, quelque chose d'inconnu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, quelle est la puissance qui agit en nous? Le Saint-Esprit. Peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. L'apôtre Paul invite les croyants à s'émerveiller devant l'amour que Dieu a montré si parfaitement Jésus-Christ nous exhorte à être émerveillés et prie pour des choses extraordinaires. On fait encore un résumé de cette prière-là. Il prie que nous puissions mesurer l'immesurable, les dimensions de l'amour de Christ. Il prie que nous puissions connaître l'inconnaissable amour de Christ. Et il prie que nous puissions être remplis jusqu'à être notre mesure de toute la plénitude des dieux. Pour ces trois choses-là. Donc, comment ces choses peuvent-elles se réaliser dans nos vies? Est-ce que Paul exagère? L'apôtre Paul exagère? Comment on peut se réaliser? Non, l'apôtre Paul n'exagère pas. Il insiste. Il dit, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comment? Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, en tous les croyants. Nous devons, frères et sœurs, comprendre cet amour. C'est la prière de Paul que nous, comme chrétiens, on puisse comprendre l'amour de Christ. On reste émerveillés. Et à cause de cela, nous vivions des vies conformes à Dieu. Comprendre l'amour. Tout concourt à bien de ceux qui aiment Dieu. Et des fois, le bien, nous pensons que c'est des bonnes choses, hein? Mais des fois, le bien, c'est quelque chose qu'à nos yeux, c'est mauvais. Mais c'est paradoxal. Hein? Toutes choses concourent à bien pour ceux qui aiment Dieu. Mais des fois, ces biens-là, c'est quelque chose qui nous fait mal, mais c'est bien. Amen? C'est bien, parce qu'il nous forme, ça nous forme. Et on comprend, on peut être capable de comprendre, parce que ça vient de l'amour de Dieu, qui veut transformer nos vies. Soyez consolés, soyons consolés, mes frères, que tout ça, ça va passer. Un jour, on va être avec lui. On doit souffrir ici dans ce monde, malheureusement. On ne va pas peut-être passer toute la vie en souffrance, non, mais on doit souffrir. Et c'est la volonté de Dieu. Un jour, j'écoutais un message de M. MacArthur qui parlait justement de ça, de vraiment comprendre Dieu et la connaissance de Dieu. Et puis, il parlait d'un ami à lui, là, qui restait loin de où il habitait, un ami de longue date, chrétien, très zélé pour le Seigneur. Puis il dit un jour, l'appel, il dit, hey, John, je vais aller à ton église, là. Je m'en vais avec ma femme, mes enfants, et puis on prend la voiture, puis on s'en va, on déménage, là. On veut aller dans ton église, là. Et, parce que je sais qu'il y a une chorale. Et puis, une belle chorale, mes enfants chantent là. J'aimerais qu'ils chantent là, dans cette chorale-là. Waouh! Vraiment là, je vais aller. Puis, c'est un missionnaire là, qui était aux États-Unis. Puis, il s'en venait. Puis, sur la route, il arrive un accident tragique. Et c'est vrai, c'est ce qui est arrivé. Sa fille est morte. Puis, il y avait deux autres jumeaux. Ils ne sont pas morts. Mais sa fille est morte. Puis, M. MacArthur, il raconte qu'il ne savait pas comment vraiment aller voir ses frères et le consoler. Il ne savait pas, il était vraiment là, éprouvé. Il y avait beaucoup de peine, mais en même temps, il ne savait pas comment parler. Des fois, ça nous arrive, hein? Des fois, comment consoler un frère ou une sœur qui a suivi une perte. Puis, enfin, il prend courage, il va le voir. Il va le voir, il dit, bon, je ne sais pas quoi te dire. Puis son ami, il dit, tu sais, John, je ne sais pas comment dire en anglais, là, Juan. Je ne veux pas te vexer, mais il était très zen. Mais je voulais que ma fille aille dans une chorale. Mais tu sais, maintenant, elle est dans une meilleure chorale que la tienne. Il est avec les anges, chante à ses dieux éternels. Et au lieu de consoler son ami, lui a été consolé par lui. Parce qu'il comprend l'amour de Christ. Parce qu'il comprend la volonté de Dieu dans nos vies. Et l'apôtre Paul finit cette prière et dit, « La gloire donc n'est pas à nous, mais à Dieu. » Et il le dit très clairement dans le verset 21, et j'aimerais qu'on finisse avec ce verset-là. Et peut-être on pourrait commencer du 20. « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église, qu'on peut traduire, qui est en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. À lui soit là. Le Dieu puissant est là. Et le Dieu trinitaire est là aussi. À qui la puissance? À Dieu le Père. Dans l'Église, en Jésus-Christ, Jésus-Christ est là. Or, à celui qui, par la puissance, quelle puissance? Le Saint-Esprit. À lui soit la gloire au siècle de siècles. Amen.